enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ensemble dans la parole de Dieu au psaume 89. Regardez avec moi au psaume 89, dans notre deuxième partie de notre série, dans la recherche « Découvrez et recevez l'onction ». Il y a une vision, très spécifique, une vision très délibérée, une vision passionnée derrière ces soirées de l'Esprit où nous venons ensemble, où nous rassemblons le peuple de Dieu avec le but simple de rechercher la présence de Dieu, de rechercher la puissance du Saint-Esprit. Le psaume 133 dévoile un secret lorsqu'il dit « À qui l'est bon, à qui l'est doux pour des frères, des sœurs, d'être rassemblés, de demeurer ensemble, de s'approcher ensemble. » C'est comme l'huile d'onction la meilleure. C'est comme une rosée sur une terre desséchée, car c'est là que l'Éternel commande une bénédiction. C'est là que l'Éternel répand, commande, orders, une bénédiction. Il y a une dynamique surnaturelle lorsque nous venons ensemble, lorsque deux personnes, lorsqu'un groupe de personnes viennent ensemble. Le psalmiste dit, c'est là qu'il y a l'onction la meilleure. Il y a une mesure de la manifestation de Dieu lorsque nous venons ensemble à la recherche de Dieu. Dieu nous rencontre dans nos lieux de culte personnels, Dieu nous rencontre lorsqu'on est seul, mais Dieu, dans le cœur de Dieu, il y avait l'idée de l'Église, du rassemblement, des gens qui viennent ensemble. Un va mettre 1000 en fuite, deux vont mettre 10 000 en fuite. Il y a quelque chose de surnaturel, il y a une dynamique surnaturelle lorsque nous venons ensemble. C'est pourquoi nous avons ces dimanches soirs, mais c'est pourquoi tout l'enfer, tout ce qui est ténébreux, essaie d'empêcher les êtres humains de venir ensemble à la recherche de Dieu. C'est pourquoi j'ai rencontré dans ma vie tellement de couples mariés qui vont dire, je sais pas pourquoi, je priais avant de me marier, puis je prie encore, puis je suis capable de prier seul, je suis capable de prier à l'église, mais il me semble qu'avec mon épouse, avec mon époux, on est mal à l'aise, je sais pas trop comment m'y prendre, je sais pas où commencer, on sait pas. Il y a toujours une raison de pas le faire. Il y a quelque chose de miraculeux et de surnaturel, par exemple, lorsqu'un homme et une femme viennent ensemble. Il y a quelque chose qui arrive à un couple lorsqu'ils prient ensemble et que tous les couples qui prient ensemble disent « Amen ». Il y a quelque chose lorsque les larmes de l'épouse et du mari se mélangent ensemble, lorsque les joues sont l'un contre l'autre, puis tu te tiens par la main puis tu pries ensemble. Il y a quelque chose qui nous soude, il y a quelque chose qui fait fuir l'enfer. L'enfer n'est pas capable de tolérer un homme et une femme qui prient ensemble. Il y a quelque chose de surnaturel lorsque les parents prient avec leurs enfants. Il y a quelque chose de surnaturel lorsqu'on vient à l'église comme ça, ensemble. Lorsque des leaders prient ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et ce n'est pas un pléonasme, ce n'est pas la répétition d'une même pensée dite de deux façons différentes. Parce qu'il est possible d'être dans un même lieu sans être ensemble. Et on peut être assis dans la même église, on peut être assis à écouter des sermons, on peut être assis à écouter la doctrine, on peut être assis et participer à des programmes, mais il y a une étincelle, il y a un déversement, il y a une manifestation surnaturelle lorsqu'on est plus que dans un même lieu, lorsqu'on vient ensemble. C'est pourquoi à travers toute la province de Québec, à travers toute la francophonie, il y a 1000 raisons pour lesquelles, entre 1980 et aujourd'hui, toutes sortes de raisons qui sont souvent bien logiques, bien comprenables. Mais il y a 1000 raisons qui font que beaucoup d'églises évangéliques ont enlevé de leur programme. On peut plus le faire, on n'est pas capable dimanche soir ou un autre moment. Et ont enlevé de leur programme cette dimension de simplement venir ensemble pour rechercher Dieu. Puis il y a quelque chose qui manque à une vie chrétienne lorsque nous ne venons pas ensemble. Il y a quelque chose qui manque à une église lorsqu'on ne vient pas ensemble. J'aimerais dire ceci, alors que nous sommes en train de mettre les fondations d'un mouvement d'église ensemble, qu'au fondement de ce mouvement d'église, il va y avoir des moments, chaque année, toute l'année, différents moments, où les ouvriers viennent ensemble, où les églises viennent ensemble pour rechercher Dieu. Il y a quelque chose qui nous manque lorsqu'on fait juste faire l'œuvre de Dieu isolé et des décennies passent sans chercher Dieu ensemble. Mais il y a quelque chose de surnaturel. Il y a un vent qui vient du ciel, il y a un déferlement. Il y a une huile qui coule lorsqu'on vient ensemble. J'aimerais que vous disiez à voix haute, ensemble. Et lorsqu'on vient ensemble, c'est là qu'il y a l'onction la meilleure. Dites à la personne près de vous, Dieu a l'onction la meilleure pour toi ce soir. Dites ça à la personne près de vous. L'onction la meilleure, lorsqu'on vient ensemble. Nous avons vu ensemble que l'onction que nous recherchons, il y a beaucoup de définitions de l'onction, mais une définition simple de l'onction que nous recherchons ensemble, c'est le déversement divin de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain qui est consacré à Dieu à travers une expérience sincère, continuelle et quotidienne avec le Seigneur, et qui lui permet de vivre une abondance spirituelle, renouvelée, un service chrétien surnaturel, un caractère chrétien véritable, une satisfaction et un bonheur authentique qui le rend capable d'un impact éternel sur son entourage et le monde. Il y a au-delà de 50, l'Ancien Testament est un livre, tous les livres de l'Ancien Testament sont comme un symbole, sont des symboles, sont des ombres, sont des enseignements sur toute la vie spirituelle du Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance, reflétant et annonçant la Nouvelle Alliance. Il y a au-delà de 50 utilisations de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament qui nous enseigne tout ce que Dieu veut faire par son onction dans nos vies. Dans la typologie de l'Ancien Testament, l'utilisation de l'onction était variée, mais tellement révélatrice. Nous voyons que l'onction était utilisée dans le temple pour même la préparation des aliments ou la préparation de l'huile, pour la préparation de la nourriture. Et tous les parents qui sont ici, je vais vous défier que j'ai besoin et vous avez besoin de l'onction de Dieu pour ce que je vais donner à nourrir à mes enfants. Puis je ne parle pas ici du repas, je ne parle pas du spaghetti, je ne parle pas de mon célèbre Kraft Dinner, je ne parle pas de ces choses-là. Je parle de la nourriture, ce de quoi mes enfants vont se nourrir dans ma maison, ce qui va être l'atmosphère de la maison, ce qui va être la nourriture, ce qui va être les principes, ce qui va être l'exemple, ce qui va être le message. J'ai besoin de l'onction de Dieu pour communiquer une nourriture spirituelle à ma famille et à mes enfants. Dans le temple, l'onction était dans les lampes du temple, mais aussi dans les maisons. Pas seulement pour l'Église. Un des défis de la vie moderne, c'est d'amener l'onction dans nos maisons. C'est de créer des moments, je parle aux parents pendant quelques instants, mais de créer des moments, de chercher des moments. Je vais être très pratique pendant ces soirées d'onction et dire, défier les parents qui sont ici, même si on est malhabile, on ne sait pas trop comment le faire, on ne sait pas par quel bout le prendre. Nos enfants ont parfois des questions qui nous bouleversent, qui nous choquent. Je veux vous défier tous les parents qui sont ici à demander à Dieu de vous aider à amener l'onction dans vos maisons. De parler de Dieu, de parler des choses de Dieu, d'avoir le défi de prier ensemble, d'avoir des moments et de, c'est pas, si c'est de la façon dont vous fonctionnez, c'est bien, soyez bénis, mais pour moi et pour beaucoup de gens que je connais, ce n'est pas vraiment à travers des moments, des lois que le mardi soir à 7h, c'est notre culte, faut qu'on le fasse ensemble, puis manquez pas là, parce que soyez-vous là, moi vous en prêchez une. C'est difficilement, c'est pas comme ça que ça s'est passé chez nous. Comment ça s'est passé chez nous beaucoup, c'est de continuellement demander au Seigneur, donne-moi des opportunités, créer des moments de prière ensemble, des moments. Et parfois, c'est pas où tu penses, c'est d'être disponible et être à l'écoute pour juste répandre l'onction dans ta maison. L'huile dans la lampe, non seulement dans le temple, dans les maisons. Récemment, j'étais dans on était au Kelsey's, on était au restaurant avec des ailes de poulet et tout ce que vous voulez. Il y avait des chrétiens qui étaient là, qui nous ont salués, puis on était là avec nos deux enfants. Et on s'est mis à parler des choses de l'Esprit, on s'est mis à parler du Saint-Esprit. Et souvent, les ados ont une façon tellement direct. C'est tellement frappant de dire les choses et les enfants qui ont grandi dans l'église, mais qui sont confrontés à toutes sortes de choses autour. Et ma fille, à un moment donné, m'a demandé, « Papa, tu crois-tu ça, toi, les dons spirituels? Tu crois-tu ça, toi, papa, ces affaires-là? Tu crois-tu ça, toi? Moi j'entends toutes sortes d'affaires. Tu crois-tu ça, toi? » Et en plein Kelsey's, on s'est mis à parler des dons spirituels, d'expériences que j'avais vécues. De moments où le Saint-Esprit a fait des choses dans ma vie. Et bien sûr, j'en parlais. J'étais touché. Isabelle, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Alors, regarde, cette fois-là, il est arrivé ça. Cette fois-là, j'étais dans tel état. Cette fois-là, maman, papa, puis cette fois-là, avec nos enfants. Puis une fois, je priais avec quelqu'un. Puis cette fois-là, j'étais. Tu la connais, cette personne à l'église? On était ensemble, on priait ensemble, il est arrivé ça. Puis une fois, il est arrivé ça. J'ai dû lui donner des exemples de dons spirituels miraculeux, de choses que la personne ne pouvait pas savoir et que Dieu lui a communiqué, de dons de foi, de dons de prophétie. Je lui racontais comment, dans un temps de jeûne et de prière, Dieu m'a donné une vision pour tout le déroulement de l'église, des choses qui étaient impossibles qui se manifestent. On était assis au Kelsey's parmi les ailes de poulet et la salade de choux, mais on était en train de vivre l'onction. Quelqu'un devrait dire amen. Je suis en train de vous dire, amenez l'onction à la maison. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir avec moi. Amenez l'onction à la maison. Pour l'usage cosmétique, dans l'Ancien Testament, usage cosmétique de beauté, de bonne odeur. Je veux simplement dire ceci. La seule beauté de notre Église, c'est l'onction. La seule beauté d'une Église chrétienne, c'est l'onction. La seule chose qui crée, la seule beauté de cette Église, nous sommes reconnaissants des bâtiments qu'il nous donne, des services qu'il nous donne, certaines compétences peut-être qu'il nous accorde. mais nous n'avons aucune illusion. S'il y a une beauté, s'il y a une chose qui est belle dans une église chrétienne, c'est l'onction du Saint-Esprit qui vient toucher des êtres humains et qui nous transforme. C'est les pierres vivantes que vous êtes sous l'onction de Dieu qui fait la beauté de l'église. L'onction du Saint-Esprit, la beauté de l'église, qui rafraîchit et restaure ceux qui entrent dans la maison et comme un médicament pour la délivrance et la guérison. C'est le message de ce soir. Ésaïe nous dit, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé tout ce qui vient de lui. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Des blessures, des contusions, des plaies vives qui n'ont pas été guéries par l'huile d'onction. Et dans le cœur et les desseins de Dieu, le Saint-Esprit, écoutez-moi bien tous, le Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine. Et ce n'est pas seulement pour le salut. Le Saint-Esprit, à l'œuvre du salut, fait de nous son temple. Il vient habiter en nous. Mais la nouvelle naissance n'est que le commencement de notre relation de communion avec le Saint-Esprit. Et une des œuvres les plus surnaturelles de l'Esprit de Dieu, dont nous allons avoir besoin toutes nos vies, c'est que le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit prend les plaies de nos vies, les contusions de nos vies, et il vient nous panser par l'huile, par son action. Il vient aussi libérer les captifs. Ésaïe dit aussi, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ses épaules. Son joug sera enlevé de son cou, car l'onction fera éclater le joug. Et le mot joug est traduit de différentes façons. Parfois, dans l'Ancien Testament, ça représente ce qui était mis sur un animal pour le diriger. Mais dans le texte ici, à différents endroits, il y a aussi cette dimension du joug qui était, comme littéralement, vous avez peut-être déjà vu des scènes, ces choses de bois qu'on mettait sur des gens, sur des prisonniers, et tu avais les bras, il y a certaines théologiens qui pensent que c'était ces genres de choses qu'on mettait sur le cou, les épaules, les bras étaient dedans. C'était un objet de torture. Le joug représentait un poids qui écrase et qui immobilise, une douleur qui paralyse, un fardeau qui épuise. Et dans nos vies aujourd'hui, spirituellement, il y a des poids qui peuvent nous écraser, nous immobiliser, des douleurs qui peuvent nous paralyser, un fardeau qui peut nous épuiser. Et il y a toutes sortes d'efforts humains qui peuvent être faits pour essayer d'améliorer notre condition et de s'aider les uns les autres. Mais bien aimé, la capacité humaine, la compassion humaine et toutes nos bonnes intentions arrivent rapidement à leurs limites. Il faut que le surnaturel soit présent. Il faut que le surnaturel vienne. Puis il y a des jours, il y a des gens qui sont ici avec des poids. Vous êtes pris dans le carcan, vous êtes pris dans l'habitude, dans l'attitude, dans le joug. Et tous les efforts humains du monde ne pourront pas vous l'enlever. Mais je veux déclarer qu'il y a une onction qui le fait éclater, qui le fait exploser, qui le fend en deux, qui enlève le poids et enlève la paralysie et te permet d'être libre et de marcher avec Dieu. On va regarder un texte ensemble. On commence ce soir pour continuer dans les prochains messages. Le psaume 89, et on va lire à partir du verset 16. Les versets vont apparaître à l'écran, on va les mettre tout de suite. À partir du verset 16, l'onction de libération, de guérison. Le psaume 89 dévoile cette onction pour nous ce soir. Heureux, verset 16 du psaume 89. Heureux le peuple qui est attentif aux cris d'appel. Par ton nom, il trouve une joie pour chaque journée. Car c'est toi, Seigneur, qui es sa force. C'est par ta faveur que s'élève notre corne. Et c'est par ta faveur que s'élève notre corne, que notre corne est remplie de l'huile d'onction. Verset 20. Alors tu communiques une vision à ton peuple. Et tu leur dis, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai répandu sur lui l'huile de mon onction. Verset 22. C'est lui que ma main soutiendra, que mon bras portera. L'ennemi ne le surprendra pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui. Dans mes notes, c'est marqué qu'à quelque part dans la lecture du verset, vous diriez amen lorsque je dirais toutes ces choses-là. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui. Ma fidélité, mon amour, mon attention à son bien, ma bienveillance seront avec lui. Et l'huile, l'onction de sa force s'élèvera et augmentera. Le verset 31 pour tous les parents. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marche plus selon mes ordonnances, même s'ils sont profanes, et contre mes commandements, verset 33, j'interviendrai contre leur révolte et contre leur faute, et ma bienveillance pour lui ne cessera pas. Je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le verset 38, le témoin qui est dans la nuée sera toujours fidèle. Je vais vous proposer l'onction de libération et de guérison devient réelle lorsque nous répondons à son appel, nous renouvelle dans sa vision et nous rappelle sa fidélité envers nos fils et nos filles. Et l'onction de libération et de guérison, c'est ça le prochain message. Nous remplit d'une révélation qui nous permet de résister. L'onction de Dieu devient réelle lorsque nous répondons à son appel. Heureux le peuple, attentif au cri de son appel. Par ton nom, Seigneur, il trouve une joie pour chaque journée. Et c'est par ton onction que s'élèvent ses forces. Le Saint-Esprit ne s'imposera jamais sur aucun être humain. L'onction de Dieu n'est jamais forcée. Et de là, dans ce verset, il y a une clé et qui représente une portion de la douleur de tous les pasteurs que je connais. Tous les bergers qui sommes nous, des petites et bien imparfaites représentations du cœur du grand berger, du Seigneur lui-même. Pour chaque pasteur, on a nos plus grandes douleurs. On a une plus grande joie, c'est de voir les gens qui, sous l'onction, viennent parfois des pires bas-fonds, être libérés, consolés, fortifiés, transformés, relevés par Dieu. Pas des vies parfaites, pas des vies sans heurts, pas des vies à l'eau de rose, mais à travers chacune de leurs épreuves, l'onction qui les ramasse, qui les relève, qui les redirige, qui les fortifie, et de voir assis parfois à côté d'eux. De voir assis à côté d'eux des gens que les années passent. Les années passent et ils semblent être insensibles, semblent être à l'extérieur d'eux. Et nous, comme pasteurs, on jeûne, on prie, on pleure pour chaque brebis. On veut les voir tous et toutes être touchés. Et cette onction-là qui semble si puissante, si agissante, si sans limite et sans une onction tellement forte dans la vie de certaines personnes, semble si limitée, si réduite dans la vie de d'autres. J'aimerais vous dire que l'onction devient réelle lorsque nous sommes attentifs au cri de son appel. Il y a un appel qui retentit ici ce soir. L'appel de Dieu qui dit, qui sera prêt à vivre par mon onction? Qui a soif de mon onction? Qui va répondre à l'appel de mon esprit? Qui va vivre par l'esprit? Qui va dépendre de l'esprit? Qui va boire à mon esprit? Il y a six types de croyants qui n'auront pour qui l'onction semble d'aucune efficacité. Si vous êtes assis ici ce soir ou ceux qui vont entendre ce message par l'Internet ou par la radio, il y a beaucoup de croyants pour qui l'onction semble sans efficacité. J'aimerais vous dire que les passifs ne recevront rien de l'onction de Dieu. Que les personnes qui sont assis là et qui subissent tout et qui endurent tout et qui laissent tout aller, qui sont passifs ou passifs-agressifs, pleins de frustration en dedans, mais n'agissent jamais, ne reçoivent rien. L'onction est répandue, l'appel retentit, mais heureux celui qui répond à l'appel et qui va recevoir l'onction. Les passifs ne recevront rien de l'onction. Les passifs ne vivront rien dans l'onction. Les fatalistes qui laissent tout aller, qui abandonnent tout, ne recevront rien. Ceux qui a tout ce qui leur arrive, ils l'acceptent, c'est comme ça, et qui n'ont pas cette réalisation que, quelle que soit ma situation présente, Dieu est capable de la changer. Il y a des choses que tu devrais pas accepter. Il y a des choses que tu devrais pas tolérer dans ma vie ou les miens. Je suis appelé à combattre, à prendre mes armes. Il y a personne d'autre qui peut se battre que moi en tant que croyant, mais je vais me battre, puis je l'accepte pas par l'onction du Saint-Esprit. Les fatalistes n'hériteront pas de l'onction. Les fatalistes ne la connaîtront pas. Les trop occupés, non, qui poursuivent passionnément tout le reste, mais qui n'ont pas de temps pour sa maison, pas de temps pour sa présence, pas de temps pour sa parole, pas de temps pour cette recherche. Le Saint-Esprit ne s'imposera, ne se forcera jamais à eux. Les satisfaits et les repus, ceux qui ont une si petite, chacun d'entre nous, tellement, nous avons seulement éraflé la surface de ce que le Saint-Esprit est. Mais pour des raisons, qu'elles soient théologiques ou qu'elles soient par peur, ou qu'elle soit par paresse spirituelle, si heureux celui qui a faim et soif, c'est lui qui va être rassasié. Mais le croyant ou les églises ou les mouvements d'église qui sont assis, assez repus, assez satisfaits avec la portion qu'elles ont, ne pourront pas avoir plus, n'auront pas plus. Et moi, il y a une fine ligne, mais je crois qu'il y a une grande différence entre être reconnaissant et rempli d'actions de grâce et être satisfait. Je crois que ce que nous devons être, c'est reconnaissant. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Reconnaissant. Merci pour les dons, les fruits de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Merci pour ce que tu nous as donné. J'espère que vous êtes avec moi reconnaissant dans l'action de grâce pour ce que Dieu a accordé, mais en même temps, entièrement insatisfait de la mesure que nous avons. Seigneur, j'ai soif pour tellement plus de toi. Les passifs ne recevront pas. Les satisfaits ne recevront pas. Les fatalistes ne recevront pas. Les frustrés ou amers ne recevront pas. Les personnes qui boudent Dieu. Les personnes qui boudent l'Église. Les personnes qui boudent, qui se font souffrir pendant des années. J'ai été blessé, j'ai été frustré. Je reste dans mon lieu de frustration. Ils ne vont même pas dans la présence de celui qui peut les libérer de leur douleur. Frustrés et amers ne recevront pas. La source de leur guérison est dans le Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit. Je dirais ceci, les inconscients et les aveugles. ceux qui sont inconscients et aveugles spirituellement. Faut que tu sois spirituellement, faut que tu sois inconscient ou aveugle pour penser que tu peux vaincre dans la vie chrétienne, que tu peux bâtir une église, que tu peux toucher tes enfants, que tu peux résister au péché par tes propres forces avec quelques versets et un rituel chrétien. Tout cela est bien, bien, bien petit en comparaison à ce qui est contre nous. La seule façon dont nous vainquons et dont nous sommes dans l'abondance, dans la victoire, c'est alors que nous crions, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Savez-vous qui s'empare de l'onction? C'est ceux qui répondent à l'appel. Ce que la Bible appelle les violents. Il y a un texte extraordinaire dans Matthieu qui dit, le paradoxe du royaume, le même Dieu qui déteste la violence humaine désire la violence spirituelle. Le même Dieu qui déteste la violence humaine désire une poursuite de cœur. Une attitude de « moi j'ai soif, moi je recherche, moi j'y vais, moi je poursuis, moi je pousse pour Dieu ». Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. On ne parle pas de violence physique, on ne parle pas de ça. Violent, biazo, biastès dans le grec, activité vigoureuse, agir avec vitalité, grande énergie, de trois mots, de biaios, force, de bios, vie, donc, biologie, bios, vie, état d'être. La définition d'une violence spirituelle, c'est un style de vie à partir de ces trois mots et un état de cœur et d'esprit où je recherche de toutes mes forces et je mets toute ma vitalité à posséder le royaume et l'onction de Dieu. C'est un style de vie, que tu sois sauvé depuis un mois ou que tu sois ici depuis 50 ans, que tu sois assis dans l'église ou que tu sois appelé dans le ministère à temps plein, chacun avec nos appels, c'est un trait de personnalité, c'est une recherche, c'est une caractéristique, c'est une qualité spirituelle de quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui en veut plus. Soyez pas violent, mais donnez un petit coup de coude à quelqu'un, vous allez, moi j'en veux plus. Non, moi, je suis pas satisfait. C'est quelque chose que tu le ressens dans les gens. C'est quelque chose, tu le ressens dans des ouvriers, tu le ressens dans des hommes de Dieu, tu le ressens dans des leaders. C'est quelque chose en eux. Ils ont soif de plus. Ils sont attentifs. Ils ont hâte. La louange commence, puis ils sont prêts. Ils veulent. Ils ont soif. J'ai faim. J'ai soif. Je veux toucher Dieu. Je veux vivre Dieu. J'ai reçu quelque chose. C'était bon. C'était merveilleux. Mais il y a de la place dans mon cœur pour encore plus. Il y a de la place dans mon âme pour encore plus. L'onction devient réelle lorsque nous répondons à l'appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'appel ce soir. Applaudissez l'appel de Dieu. L'appel à répondre à la voix de l'Esprit. Quand je vais à New York, je vis toutes sortes d'expériences comme je vous ai partagé ce matin, mais parfois, au fil des années, un de mes grands trésors, un de mes grands héritages, une de mes grandes bénédictions dans la vie, c'est certains moments spirituels que j'ai vécu parfois derrière la scène. J'étais privilégié juste parce que j'étais là de les vivre avec des hommes comme David Wilkerson et d'autres. Et le frère Wilkerson est un père spirituel pour moi. Et parfois, j'ai vu des moments dans l'arrière-scène avec lui. L'année passée, c'était 2006 ou la fin 2005 ou en 2006. Je me souviens de ce moment où je suis arrivé pour la réunion du dimanche soir. Et j'avais reçu des emails pendant la semaine qui nous avaient annoncé que la petite fille de David Wilkerson, 12 ans, était décédée d'un cancer. Sa femme a eu 17 opérations pour le cancer. Elle a combattu le cancer pendant des années et des années de sa vie. Ça a été une présence dans sa vie. Sa fille a été gravement malade du cancer. Et maintenant, sa petite fille avait été malade du cancer et est décédée du cancer à 12 ans. Et j'avais appris ça pendant la semaine et j'ai fait des réunions du matin. Je pense qu'on avait une réunion à ce moment-là. Je m'en allais, je suis arrivé là-bas puis je suis arrivé à quelques minutes avant la réunion du soir. Je ne pensais pas qu'il serait là puis il était là. Et alors qu'on était ensemble, on était arrivé dans le moment de prière avant la réunion. Puis une des choses que les gens ne savent pas toujours du frère Wilkerson, c'est qu'il a parfois une humilité qui est désarmante. Lui n'a pas il fait pas semblant. Et il a pas de sens de qui il est. Puis moi, je suis l'homme de Dieu. Puis il est vraiment. Et je l'ai vu faire des choses en prière et toutes sortes de choses devant Dieu, assez saisissantes. Et ce soir-là, on priait ensemble dans la salle des pasteurs avant de monter sur l'estrade pour aller commencer la réunion. Il est peut-être 6h-10, la réunion commence à 6h. Et alors qu'on s'est mis à prier, puis il y a un frère qui était là qui a dit, moi j'ai à cœur de prier pour notre frère David avec ce qu'il traverse, sa famille. Alors on s'est mis à prier pour lui plutôt que pour la réunion, mais aussi pour la réunion, mais priant pour lui. Et là, au lieu de juste rester extérieur, de rester, mon merci Seigneur, la consolation, etc., j'ai eu le privilège de voir un homme vrai et de voir aussi toute la douleur de son cœur. Après quelques minutes qu'on a arrêté de prier, lui a commencé à prier. Sans qu'on fasse quoi que ce soit, il s'est agenouillé, commencé à prier. Et je vous dis, moi, je pleurais comme un enfant parce que humainement, j'aurais voulu faire du bien, j'aurais voulu le consoler, j'aurais voulu parce qu'il a prié avec une ouverture hallucinante. Un monsieur qui a 40 ans à ce moment-là, 45, 50 ans de vie chrétienne ou plus que ça avec Dieu. Puis il était à genoux et il disait, Seigneur, Si ton Saint-Esprit ne vient pas faire son œuvre, je suis fini. J'arrête ici. Je peux pas continuer. Saint-Esprit, je vois plus. Saint-Esprit, je vois plus que ce que je pourrais faire de plus. Saint-Esprit, je peux plus continuer. Mais Seigneur, à chaque fois que j'ai été dans ce lieu-là, on était tous là, on était privilégiés juste de voir un homme parler avec son Dieu, d'avoir cette soif, cette reconnaissance. J'ai soif, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Et j'aimerais déclarer ce soir, j'aimerais dire ce soir que c'est ça, l'Esprit qui anime mon cœur. On met de côté les masques, on met de côté le faire à semblant. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et Saint-Esprit, je réponds à ton appel. Viens me fortifier, viens me renouveler, viens me ressusciter et faire une devant moi. Dites amen si c'est votre cœur ce soir. Applaudissez le Dieu qui nous appelle toujours et répond au cri de notre cœur. L'onction de libération et de guérison devient réelle lorsque nous répondons à son appel. Et je termine avec ceci. L'onction de guérison et de libération nous renouvelle dans sa vision et nous rappelle sa fidélité envers nos fils et nos filles. C'est pour nous et c'est pour ceux qui sont autour de nous. Alors tu parlas, psaume 89, verset 20 et 21, toujours dans notre texte qu'on a lu. Alors tu parlas dans une vision à tes fidèles et tu dis, j'ai fait une promesse à un héros. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai répandu sur lui une huile fraîche. Ma main le soutiendra et le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas. Vous voulez lire les mots encore une fois? Alors tu parlas dans une vision à tes fidèles et tu dis, j'ai fait une promesse. Je me suis choisi un héros. J'ai trouvé un David. J'ai répandu sur lui une huile. Ma main le soutiendra et l'ennemi ne le surprendra pas. J'ai répandu, j'ai parlé, j'ai prononcé, j'ai annoncé. Alors, Seigneur, tu as parlé dans une vision à tes fidèles. Je vais te dire la manière la plus simple possible. C'est seulement par l'onction que nous sommes rappelés par Dieu qui nous ramène à une vision qu'il est possible pour nous d'être choisis par lui, d'avoir l'onction, d'être appelé par lui, d'être fortifié par lui et de ne pas tomber dans les pièges de notre ennemi. Il ne sera pas. Moi, c'est une des plus belles promesses que je veux pour ma vie, une des plus grandes manifestations de l'onction. Il ne sera pas surpris par son ennemi. Que l'ennemi ne pourra pas, sans l'onction, dans les combats de la vie, sans l'onction, c'est le mensonge qui remplit nos pensées. On entre dans des voies de découragement, on entre dans des voies de résignation, on entre dans des voies où notre vision est diminuée par les obstacles que nous vivons et par l'expérience qui nous frappe année après année et par les défaites qui nous entourent et par les gens autour de nous et par tout ce qu'on peut vivre et la pression qui est autour de nous. Sans cette onction, nous sommes réduits, nous sommes atrophiés dans notre vision. Et c'est seulement alors que l'onction est répandue, l'onction fraîche est répandue sur nous, qui nous donne une vision. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la prétention, mais sans l'onction, tu te recroquevilles sur toi-même. Sans l'onction, tu te vois tu veux juste survivre à travers tout ça. Mais c'est l'onction qui permet à quelqu'un, sans arrogance ou prétention, c'est l'onction qui permet à quelqu'un, tu es dans la présence de Dieu, tu es avec Dieu, et l'onction est répandue sur toi, puis quelque chose qui monte en toi. Puis c'est pas de l'arrogance, mais il y a quelque chose qui monte en toi, c'est de la confiance. Dieu est capable encore aujourd'hui de se choisir des hommes et des femmes. Il appelle mon nom, il répand son onction sur moi, il va me soutenir, il me lâchera pas. Et je vois toute la vérité, je vois toute la beauté, je vois tout l'espoir, je vois tout le beau qui pourrait arriver par l'onction de Dieu. C'est seulement par l'onction que tu vas voir ton couple comme Dieu voit ton couple. C'est seulement par l'onction que tu vas voir ton épouse comme Dieu voit ton épouse, que tu vas voir ton mari comme Dieu veut que tu vois ton mari. C'est seulement par l'onction que tu vas voir ton ministère tel que Dieu le voit vraiment. Alors que je suis dans l'onction, le Seigneur a prononcé une vision et sans prétention, je suis rien sans lui, mais avec une confiance inébranlable, le Saint-Esprit me rappelle que Dieu se choisit des personnes et les transforme par son onction. C'est seulement par l'onction que des maris peuvent avoir une vision et un sens de ce que leur mariage peut être, de ce que leurs enfants peuvent être, que des hommes et des femmes peuvent être changés, qu'une église, que les départements de notre église, que des visions, que des ministères ne s'arrêtent pas après de bons départs, ne se limitent pas à si peu alors que Dieu a tellement plus. C'est sans limite ce que Dieu peut faire à un homme, à une femme, lorsque dans l'onction, nous lui permettons de nous renouveler dans notre vision. Renouveler notre vision. Jean dit ceci. Et voici, la promesse qu'il nous a faite ne change pas. 1 Jean 2, 25, 27. La promesse qu'il nous a faite ne change pas. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et c'est l'onction qui vous enseignera. C'est l'onction qui vous rappellera toutes ces choses. Ce qui est véritable de ce qui est mensonge. C'est l'onction qui te permet de voir pour la laideur et la folie, la noirceur de ce que le mensonge est vraiment. Il y a des gens qui croient des mensonges et qui lâchent, qui croient des mensonges et qui abdiquent, qui croient des mensonges et qui acceptent des choses que Dieu ne voudrait jamais accepter. Mais tu n'es pas capable de le voir autrement. Ou humainement, tu n'es pas capable de le voir. C'est le mensonge qui devient le découragement, les faits, la réalité humaine qui est là. Et Jean dit à quelque chose, une des manifestations puissantes de l'onction, c'est que l'onction, la promesse, elle ne change jamais. Dieu t'a fait une promesse qui ne change pas. Mais humainement, tu n'es pas capable de le saisir. Alors le Saint-Esprit vient t'enseigner. L'onction vient te rappeler ce qui est vérité. Et l'onction est capable de faire que tu regardes la situation et tu vois maintenant, hey, ça c'est mensonge. Et moi, je suis renouvelé dans la vérité que Dieu a pour moi-même et pour mes bien-aimés. Dans le texte, la promesse est tellement extraordinaire lorsqu'il dit, lui, il m'invoquera en disant, toujours le psaume 89, lui m'invoquera en disant, tu es mon Père. Et si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes commandements, j'interviendrai contre leur révolte et mon action de bienveillance n'arrêtera pas pour eux. Je ne cesserai jamais de leur faire du bien, dit le Seigneur. Je ne leur ferai pas de défaut dans ma fidélité. Le témoin qui est dans la nuée est fidèle. Quelle promesse pour tous les parents qui sont ici. J'arrive vers la fin du message. Tu es mon Père. Et si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes commandements, le Seigneur dit, moi, j'interviendrai contre leur révolte. Sans l'onction de Dieu. Je m'adresse quelques instants aux parents, aux maris, aux femmes et aux parents. Sans l'onction de Dieu, nous pouvons trop facilement, très tristement, abdiquer et abandonner nos enfants qui se sont éloignés des choses de Dieu. Sans l'onction de Dieu, nous pouvons avoir de la peine pour leur révolte, en venir à avoir honte de leur révolte. Ou de leur... Même dans le texte, il dit, même lorsqu'ils seront profanes devant moi. Dieu dit à tous les parents ici, je ne suis pas dégoûté lorsque tes enfants sont rebelles. Lorsque tes enfants font des choses terribles et contraires à ce que tu leur as communiqué. Moi, je suis l'Éternel et je suis capable d'intervenir contre leur révolte. Je suis capable d'intervenir contre la révolte de leurs actes. J'arrêterai jamais de leur faire du bien. Mon amour pour eux ne changera jamais. Ma fidélité pour eux ne changera jamais. Je veux parler à nous comme hommes et femmes de Dieu et comme père et mère, comme mari et femme et comme gens de l'Église avec des gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui se sont éloignés de Dieu. Et l'Église pour ses rétrogrades. Sans cette action de l'onction, on abdique sur ceux qui ont quitté, sur ceux qui sont loin. On en vient à l'accepter, on en vient à l'excuser. Et c'est une fine ligne entre cet état comme parent de « je vais aimer mes enfants quand même s'ils sont loin des choses de Dieu » et simplement accepter le fait qu'ils sont loin des choses de Dieu puis le prendre pour, comme ça puis de l'abrier, de le couvrir. Je crois que Dieu veut que l'on les aime, qu'on soit présent, qu'on soit là, mais qu'on ne perde jamais ce cœur que Dieu est capable d'intervenir contre leur révolte, que Dieu est capable d'intervenir contre leur endurcissement. Et Dieu veut élever des pères et des mères qui sont pas tout le temps en train de leur prêcher dessus, pas tout le temps en train de leur frapper dessus avec la Bible, mais qui dans le lieu secret, lorsque tout a été dit, dans le lieu secret, il y a une foi dans ton cœur, il y a un combat qui cesse pas. Seigneur, c'est toi qui es mon père. Je viens, moi je suis un père, moi je suis une mère, moi je suis un mari, une femme, je viens à toi comme mon Père, et je t'appelle, Seigneur, à intervenir contre leur révolte. Celui qui est dans la nuée, celui qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin fidèle est là pour moi et peut intervenir. C'est seulement par l'onction que tu gardes ce cœur-là, que tu te renouvelles, que des gens qui sont ici, quelques-uns, je vous dis ça tendrement, j'invite les musiciens à s'approcher, j'arrive à la fin, des gens qui sont ici qui ont vécu vraiment des déchirements, des déceptions dans votre mariage. C'est l'onction de Dieu qui peut te permettre de te voir et de voir les gens autour de toi, non seulement pour ce qu'ils sont en ce moment, mais pour ce qu'ils peuvent devenir, pour ce que Dieu peut faire en eux. L'onction qui te ranime, qui te révèle, qui te ramène à un sens pour mes enfants que Dieu est capable d'intervenir contre leur révolte. Dieu n'est pas dégoûté. Dieu ne dit pas, ben franchement, ça se peut-tu? Ça, c'est une fille de chrétienne qui agit comme ça. Ça, c'est un fils de pasteur que j'ai de même. Ça, c'est une fille de chrétienne que j'ai comme ça. Non, Dieu est dans le ciel, puis il dit, moi, je suis capable, appelle à moi, crie à moi, viens à moi, je vais répandre une onction sur toi, je vais fortifier, ranimer la flamme de ton cœur. Tu te sens seul sur la terre, tu te sens dépassé avec tes enfants, mais le témoin qui est dans la nuée, il est fidèle envers toi. Je suis béni lorsque, je l'ai remercié personnellement lorsqu'il était ici. Je remercie le Seigneur pour l'ouverture et la transparence et la franchise d'un homme comme Jim Cimbala. Je remercie Dieu lorsque, il y a quelques mois, au mois de décembre, j'ai reçu sa carte, m'a envoyé sa carte de Noël, de le voir avec sa famille. Il y avait une petite lettre avec qui disait que quelle joie maintenant pour notre fille de venir œuvrer à l'œuvre à l'Église avec nous. Elle est maintenant dans le ministère auprès des enfants, etc., etc. Puis il a simplement écrit, vous vous rappellerez tel a été, tel a, le combat que nous avons vécu et comment Dieu est fidèle. Je veux encourager vos cœurs avec vos enfants, etc., etc. Je remercie Dieu pour la transparence d'un Jim Cimbala qui a raconté qu'alors qu'il bâtissait une des églises qui grandissait le plus vite aux États-Unis, une église qui était connue du monde entier, que son ministère public prenait une expansion extraordinaire, il vivait avec sa fille des périodes d'une douleur atroce. Sa fille était dans un état de rébellion extrême. Et tellement, tout ce qui peut arriver, la drogue et les problèmes, et se faire arrêter un peu par la police, et faire des fugues, etc. Et finalement, après un certain... Lui, il vivait tout ça, il savait pas quoi faire. Et puis la prière, et par la suite, tout essayer, toutes les démarches possibles, dialogue, partage avec elle, plus sévère, essayer tout ce que tu es capable de faire. Et sa fille qui s'enlisait, et qui à l'âge de 19 ans a sorti de la maison, et puis elle vivait encore à New York, puis a commencé à de moins en moins avoir contact avec ses parents, semblait avoir de la haine pour ses parents, a fait des déclarations comme un adolescent peut faire, comme une jeune peut faire, comme une personne peut faire dans sa douleur, s'est mis à dire à son père, je crois pas en ton Dieu, je crois pas à l'existence même de Dieu, je suis contre qu'est-ce que tu fais, je trouve que c'est, et les blessures, et Cimbala a dit, c'est comme un poignard qui rentrait dans son âme, et finalement, sa fille leur a envoyé une lettre pleine de haine, et les mois ont passé, ils ont été sur une période de presque 2 ans sans même avoir de nouvelles d'elle. Ils ne savaient pas où elle était. Quelqu'un leur a dit, elle n'est plus à New York, elle est partie, ils ne savaient pas, elle était disparue, où elle était. Et Cimbala a dit qu'il a passé toute la gamme des émotions. Puis à un moment donné, c'est en train tellement de le détruire. Son épouse a fait une dépression à travers tout ça. Et il s'était tellement en train de le détruire, puis il dit, j'ai pas fait ça volontairement, j'ai pas fait ça sciemment, consciemment. Mais j'étais arrivé à un moment où, puis il a raconté ça dans une conférence de pasteurs, et il y avait beaucoup des pasteurs qui étaient là, qui écoutaient, qui étaient surpris par son ouverture. Mais j'en suis venu à une place où j'ai presque arrêté de prier pour elle. J'en suis venu à une place où je l'ai mis à part, je l'ai mis à côté, ça faisait trop mal même d'y penser ou de... Puis les mois passaient. Et un jour, dans la présence de Dieu, alors qu'il était en train de prêcher lui-même sur la foi et sur Dieu qui intervient, pendant qu'il parlait même pas de ce sujet-là, mais il parlait de comment Dieu n'abandonne jamais, et Dieu ne laisse jamais, et Dieu ne lâche jamais. Le Saint-Esprit est venu faire une œuvre en lui. Il est en train de prêcher aux autres. Et le Saint-Esprit lui a ramené sa fille. Et il a dit à la congrégation, je veux m'arrêter ici et vous dire, je vous demande pardon. Et je veux vous demander de prier avec moi parce que j'avais plein raconté ce que je viens de vous dire. J'avais perdu mon cœur, j'avais perdu ma vision, j'avais perdu ma foi pour ma fille. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Puis il dit, dans cette réunion-là, toute l'Église s'est réunie autour du pasteur, puis on m'a prié avec lui, puis tout ensemble. Puis il dit, j'ai été capable de recommencer à juste croire, puis à prier pour ma fille, puis à croire pour ma fille. Puis dans les jours et semaines qui ont suivi, il n'y a pas eu de changement tout de suite, mais il dit, il y a un changement qui est arrivé en moi. Et c'est ça que l'onction fait. L'onction fait que avant je voyais plus rien, j'étais plus capable, j'étais fermé, j'étais éteint, j'étais sans vie. Mais l'onction me ramène que Dieu est capable d'intervenir contre la révolte, intervenir contre leur douleur, intervenir contre l'ennemi qui est sur leur vie. Et je peux les réclamer pour Dieu. Vous devriez dire amen. Il dit 9 mois plus tard, c'est particulier, mais 9 mois plus tard, presque jour pour jour, il était à l'église un dimanche après une des deux des réunions. Son épouse a appelé et a dit, notre fille est revenue à la maison. Viens-t'en après la réunion, elle est là. Puis il dit, le plus beau jour de sa vie. Il est arrivé chez eux, rentré dans la maison, puis sa fille partie à courir, puis elle s'est jetée dans ses bras. Puis elle dit, reprends-moi, I want to come home. Je veux revenir à la maison, je veux revenir. Puis elle dit, papa, où que j'étais, n'importe où que j'étais, partout où j'allais, je n'étais pas capable de me sauver des chrétiens. En ville, en campagne, écoutez... En Europe, en Amérique latine, je suis allé partout. Je voulais juste plus vous voir, plus vous entendre. Partout où j'allais, il y a des chrétiens qui venaient me parler de Dieu. Il y a des chrétiens qui me parlaient. Elle dit, lorsque je disais mon nom, ils disaient, Cimbala, on en connaît un, Cimbala. C'est un homme de Dieu et on l'apprécie. Et j'étais à l'autre bout du pays, aux États-Unis, et il y a une dame qui était assise à côté d'elle dans la rue, puis qui commençait à lui témoigner sa foi, puis elle savait pas, je voulais me sauver, puis la dame me dit, toi, tu dois avoir des parents qui prient pour toi. Je n'étais pas capable de me sauver. Dieu dit, j'interviendrai contre leur révolte. Nord, sud, est, ouest, je vais les retrouver et les ramener dans mes voies. Alléluia. Alors ce soir, si vous voulez bien, nous allons venir et dire, Seigneur, viens me remplir de confiance. Viens me remplir d'assurance. Que je vais terminer avec ceci. Je sais que c'est ma troisième fin, mais c'est la dernière conclusion. car le témoin sur la nuée est fidèle. Le psalmiste a une vision. Ça, c'est quelque chose que tu peux entendre. Tu peux dire, oui, le Seigneur est fidèle. Mais lorsque c'est une révélation par le Saint-Esprit, ça change tout. En l'Ancien Testament, le psalmiste a dit, le Seigneur est capable d'intervenir contre leur révolte. Parce que le témoin que j'ai dans la nuée, il est fidèle. Des millénaires plus tard, sur l'île de Patmos, Jean, alors qu'il avait une prophétie, alors qu'il avait une révélation, qui voyait ce qui était pour se passer sur la terre, et que tout était horreur et tourbillon et terreur et catastrophe et doute, et que lui-même, dans sa vie personnelle, avait été arraché aux siens et était sur une île de pierre et de froidure et de saleté et d'immondices et de détritus. Il était là au milieu d'une pile de déchets sur une île abandonnée et enlevée à tous ceux qu'il aimait. Et alors que tout tourbillonnait autour de lui, il a eu par le Saint-Esprit la même vision que le psalmiste des millénaires auparavant dans le psaume 138. Dans l'Apocalypse 14, il dit, j'entendais du ciel une voix qui disait, j'entendais l'Esprit qui parlait. Et c'est ça que l'onction veut faire ce soir, ici à Longueuil. Que du ciel, il y a une voix qui te parle. Puis il y a l'Esprit qui te parle. Et lorsque c'est Dieu, je ne parle pas d'entendre des voix audibles, seulement je parle de dans ton cœur, dans ton esprit, une assurance qui vient, une confiance qui vient, le ciel qui s'ouvre, la voix de Dieu qui parle, l'onction de Dieu qui t'enseigne ce qui est vérité, ce qui est mensonge. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 14, il a vu la même chose. Il dit, j'y regardais et j'ai vu un homme sur la nuée. Il avait une couronne sur sa tête, puis il avait une épée dans sa main. J'ai vu Jésus-Christ sur la nuée, et la couronne dit qu'il a parfaitement le contrôle de toutes choses. Puis il y a une épée dans sa main, ça parle de son intervention, de sa puissance, de son action. Moi, j'étais vraiment béni lorsque j'ai lu ça, et je regarde, et je trouve pas que ça colle comme ça devrait. Je trouve pas que vous le recevez comme... Alors, je vais vous demander de faire ceci. Je vous parle d'un homme dans le ciel, avec une couronne sur sa tête, puis une épée dans sa main. Asseyez-le, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Faites-le avec moi. Un homme dans le ciel, une couronne sur sa tête. Un épée dans sa main. Une autre fois. Un homme dans le ciel. Il y a une couronne sur sa tête. Il y a une épée dans sa main. Ça va être magnifique pour ceux qui vont l'écouter à la radio. Ils ne comprendront pas du tout ce qui se passe à ce moment-là. C'est pas mal, mais j'aimerais ça que vous le disiez maintenant avec moi. En même temps qu'on fait le geste, j'aimerais que vous disiez, il y a un homme dans le ciel. Oui, mais je traverse des choses tellement difficiles avec mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en direct. Ils n'écoutent rien. En direct, ils ne comprennent rien. En direct, que je perds du terrain. Oui, mais il y a un. Dans ma vie, dans ma famille, j'ai besoin de renouvellement. J'ai besoin d'une vision en direct. Toutes les ténèbres se déchaînent contre moi. Je me sens seul. Je me sens abandonné. Mais il y a un. Et à toute la francophonie qui va entendre ce message, nous voulons vous dire qu'il y a un homme dans le ciel, une couronne sur sa tête, une épée dans sa main, et le témoin est fidèle. Criez un dernier Amen ce soir. Donnez-lui un petit seconde d'ovation. Alléluia. Alléluia. On va lui donner une ovation debout. On va se lever et on va lui donner une ovation debout. Voulez-vous remplir ce lieu d'un applaudissement? Un cri. Alléluia. 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 Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.